Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître et surtout vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Justine Davas, la créatrice du mouvement Zéro, qui fait la promotion d'une posture éco-responsable. Eh bien, bonjour Justine.
Bonjour.
Justine, vous êtes militante climat et conférencière en transition écologique, à l'origine du mouvement Zéro, que vous allez nous expliquer tout à l'heure, enfin tout de suite. Vous venez de publier un livre qui s'appelle « Le guide des mouvements zéro pour un futur enfin désirable » chez Tana Éditions. Alors Justine, déjà, comment vous êtes devenue militante du zéro, zéro déchet? Parce que le mouvement zéro, c'est un mouvement zéro déchet, je le dis sous votre contrôle.
Les mouvements zéro, en fait, c'est assez... on va dire assez large, c'est assez holistique. Ça regroupe l'idée du zéro dans le secteur de l'énergie, de l'économie, de l'alimentation durable, des déchets bien sûr, parce que ça fait penser à ça tout de suite. Mais en fait, c'est assez large cette idée du zéro, c'est comment sortir de cette idée de la croissance infinie et de mettre en place dans sa vie une certaine résilience. Mais le zéro, c'est aussi le départ, le point de départ de toute créativité. C'est pas genre zéro fun et puis on pleure toute sa vie, mais c'est pour créer, il faut bien partir de quelque part. On part de la situation où on est aujourd'hui et puis on va vers une société qui va être, oui, aux besoins décroissantes, mais où la créativité humaine est florissante, etc. Donc les mouvements zéro, c'est un peu cette idée, ce concept philosophique qui regroupe tous les mouvements de la transition écologique.
D'accord. Alors avant de nous expliquer le concept matériel du mouvement zéro, puisque au-delà du concept philosophique, c'est comment on le met en place dans sa vie de tous les jours, et c'est quelque chose que vous exprimez bien dans votre livre, à travers différentes thématiques où vous expliquez donc de la maison, à travers comment gérer les déchets chez soi, sa beauté, ses voyages, jusqu'à la réflexion philosophique. Ouais, sociopolitique en fait. Comment vous, Justine, vous avez 31 ans, ce que vous me disiez tout à l'heure en off, vous avez été amenée à faire tout ça, devenir militante.
Ouais. C'est vrai que j'ai grandi de manière tout à fait banale avec les supermarchés, les bouteilles d'eau en plastique, les aliments sous boîte. Et c'est juste que petit à petit, dans ma vie, avec des rencontres, je me suis rendu compte que les fermes, ça existait, la permaculture, ça existait, et qu'on pouvait faire les choses différemment. Et puis vraiment, le coup de grâce, ça a été une année d'études à l'étranger, en Finlande. Et là, j'ai vécu un choc, en fait, entre, on va dire, les valeurs des pays du Nord, un petit peu sortir et vivre la nature, prendre soin de soi, etc. Et mon quotidien d'étudiante Erasmus dans une résidence étudiante où il n'y avait pas de gestion des déchets, il y avait énormément de gaspillage et énormément de débordements en tout genre. Et du coup, avec ce gâchis, en fait, parce qu'il y avait énormément d'achats et puis de turnover, enfin, je retrouvais des vêtements dans la poubelle, je retrouvais des tas de choses. Et en fait, j'ai mis en place un système de ce qu'on appelle le système aujourd'hui des ressourceries, c'est-à-dire les collectes des objets dont les gens ne voulaient plus, qu'ils considéraient comme déchets, pour ensuite, moi, les réorienter vers des associations, parce que il y a quand même des gens dans le besoin, qui sont en précarité et qui avaient besoin de vêtements, de nourriture, de cosmétiques. Et en fait, c'est vraiment ce shift à ce moment-là où je me suis dit, je peux arrêter de me plaindre et je peux arrêter de subir ma vie et je peux me rentrer en action et vraiment être proactive. Et en fait, ça correspond aussi à un moment où je lisais des choses sur Bea Johnson, sur Lauren Singer, qui est une Américaine qui vit à Brooklyn et qui est zéro déchet. Et elle parlait beaucoup de ça, de la proactivité, vraiment de shifter son sa façon de penser, de se dire, arrêter de toujours se plaindre, de dire les gens ils sont sales, les gens ils gâchent, les gens ils machin, et de faire. Et en fait, ça a vraiment été pour moi un moment décisif. Et ensuite, quand je suis rentrée à Orléans, là où j'habite, j'ai déjà fait un premier tri dans ma vie. Genre, je me suis dit, je veux vivre zéro plastique, puis je veux vivre zéro déchet. Et enfin, j'ai lancé en parallèle mon podcast qui s'appelle Les Mouvements Zéro. Et je me suis dit, bon, il n'y a peut-être pas que le zéro déchet dans la vie. Et je suis allée rencontrer des gens avec mon micro pour qu'ils me parlent d'éco-construction, qu'ils me parlent de démocratie participative, qu'ils me parlent de toutes ces choses que je ne connaissais pas. Et qui, j'avais l'impression, changeait le monde et vraiment mettait en action tout le monde, enfin les gens, quoi.
Alors ça ressemble à quoi, une vie zéro déchet, une vie, la vie de Justine en fait?
Ça ressemble à une vie normale. Il y a ce qui peut être difficile dans la vie zéro déchet, enfin quand on se projette, c'est on se dit comment je vais y arriver. Parce que on regarde sa poubelle et on se dit punaise, mais les 30 litres, je les tiens bien, ça me tient bien une semaine, quoi. Et en fait, pour moi, la première étape, ça a été de regarder ce que je jetais. Enfin, voilà, c'est d'abord pour moi un processus intellectuel avant la mise en pratique concrète. Donc, de me dire, ok, je fais mes recherches, qu'est-ce que je jette? Le sopalin, les mouchoirs, l'emballage de la viande ou des fruits et légumes, etc. Et puis, d'éliminer petit à petit, ça passe par les achats, parce que si le déchet, on ne l'achète pas, forcément, il finit pas dans la poubelle. Donc, c'est assez simple de ce côté-là à comprendre. Et puis, à mettre en place dans sa vie, par rapport à là où on vit, par rapport à ses horaires de travail, par rapport à tout ça. Donc, ça va demander un temps, peut-être un peu embêtant, mais de recherche de solutions. Et puis, on peut aussi demander autour de soi, les voisins, les associations, les AMAP, où est-ce que chacun se... Comment fonctionne son... On va dire, sur son territoire, les solutions qui existent déjà. Et donc, une vie zéro déchet, ça ressemble à ça. Repenser ses achats alimentaires et non alimentaires, en termes de vêtements, par exemple, plutôt privilégier le seconde main. Pareil pour la technologie, pareil pour divers équipements. Et puis après, on peut quand même sortir, boire des verres, aller faire des concerts, on peut quand même faire plein de choses. C'est juste que globalement, je réfléchis à mon impact parce que l'idée, c'est pas de... En fait, j'aimerais pouvoir vivre sans impacter trop la vie des autres. Quand on génère trop de déchets, ça a forcément un impact en termes de pollution de l'air et en termes de pollution des océans et de pollution des sols.
Quels sont les enjeux aujourd'hui écologiques auxquels on est en train de faire face, juste pour les rappeler, parce que c'est pas suffisamment aujourd'hui évangélisé par les médias traditionnels. Quels sont les enjeux auxquels on doit faire face et qui nous amène aujourd'hui, qui vous amène à vivre dans un mode très restrictif, en tout cas plus conscient de vos actes en fait, vous parliez tout à l'heure de vos achats, donc l'acheter en conscience, privilégier le seconde main, d'acheter moins, de regarder comment on consomme ses aliments, enfin voilà, dites-nous.
Le tableau, il n'est pas glorieux quand on le regarde d'une certaine façon. Extinction de masse, pollution des océans. On dit que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Pollution de l'air. Ça va jusqu'à l'exclusion sociale parce que on décide de détruire plutôt à un endroit pour construire un incinérateur toujours dans les mêmes quartiers un peu défavorisés. On décide de détruire des habitats pour y faire des grands centres commerciaux. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui peuvent donner envie d'agir. Là où notre sensibilité va être, ça peut être l'exclusion sociale, tout comme la destruction des habitats naturels. J'ai envie de voir que dans le monde, en ce moment, il y a plein de choses qui ne vont pas bien. J'ai aussi envie de voir qu'il y a des gens qui mettent en place des solutions.
Quel est le mouvement, le shift pour vous en termes d'organisation qui a été le plus difficile à mettre en place au niveau du, du zéro
Je dirais apprendre, parce que c'est même pas réapprendre, mais c'est vraiment apprendre à construire ensemble. Parce qu'il y a plein de choses dans les mouvements de la transition, si on parle des mouvements, des collectifs ou des associations comme Ville en Transition, on parle, les incroyables comestibles, etc. Il y a toute une idée où la transition ne peut pas se faire tout seul dans son coin. Et le zéro déchet, c'est quand même un truc qu'on peut faire tout seul dans son coin. On ne change pas grand-chose, on n'a même pas à parler à qui que ce soit, on change juste sa façon d'acheter, etc. Et dans la transition écologique, il y a vraiment cette idée d'apprendre à faire ensemble. Parce qu'on ne peut pas tout seul avoir toutes les compétences et porter sur ses épaules tout seul toutes les responsabilités du monde. Et ça, ce n'est pas un truc qui est favorisé par notre système scolaire actuel. De vraiment apprendre à co-construire des projets, à la vraie coopération, sans jeu de pouvoir, sans je te coupe la parole, sans j'essaie de te séduire, te convaincre, te machin. Et ça, ça a été pour moi un défi, et ça l'est toujours, je pense, qu'on apprend à faire avec les autres toute sa vie. Et peut-être que je regrette de ne pas l'avoir appris à l'école, justement, à construire des projets. Je sais qu'aujourd'hui, dans plusieurs écoles, il y a des potagers qui se font, il y a des choses où on se dit qu'on a besoin des autres, parce qu'on ne peut pas faire tout seul, tout gérer. Donc ça, pour moi, ça a été peut-être un des points les plus difficiles, mais chacun verra la difficulté où il veut. Mais...
Alors vous, dans votre vie de militante, est-ce que effectivement, cette problématique liée au savoir-être, quelque chose que vous touchez, j'ai un sentiment que vous touchez beaucoup du doigt parmi les groupes militants écologiques.
Je sais pas compris la question.
Dans votre activité, dans le militantisme, vous parliez tout à l'heure effectivement de faire ensemble, puisque seul on peut rien faire tout seul, et d'apprendre à faire ensemble, puisque c'est quelque chose qui peut se transmettre, qui peut s'apprendre. C'est quelque chose qui vous a manqué ou que vous sentez qui manque d'une manière générale dans l'organisation du mouvement zéro.
Je
suis claire ou pas?
Je suis pas sûre de. En fait, les mouvements zéro, c'est pas une asso, c'est pas une fondation. C'est juste une philosophie, une manière de penser. Pour moi, qui a été de dire il y a plusieurs mouvements épars. Je vois dans l'alimentation, il y a le véganisme, il y a les gens qui font de l'éco-construction, il y a des gens qui font du zéro déchet. Et comment tout ça dessine les contours d'une nouvelle société. Et comment tout ça pourrait s'articuler, si tout le monde faisait un peu de tout ça, vers une société plus résiliente et plus écologique. Après, pour répondre à ta question, j'ai pas forcément compris.
Alors en fait ma question, je vais la reformuler. Dans quelle mesure, parce que j'ai vu dans ton livre que tu allais voir pas mal d'associations, pas mal d'organisations en matière d'écologie. Et du coup, comment est-ce que ces organisations, associations se parlent? Est-ce qu'il y a des passerelles de collaboration entre elles? Ou est-ce que tu as pu noter certaines formes de rivalité ou alors de courants? Il y a des courants qui peuvent être un peu plus modérés que d'autres, qui vont être un peu plus radicales. Est-ce que c'est quelque chose que tu as senti qui est là? Enfin, voilà, quel est pour... les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui?
Je pense que je ne peux pas parler en global pour le national, mais je peux parler seulement de ce que j'ai vu moi dans ma ville. Parce que c'est de l'humain et ça va dépendre des humains qui sont dans chaque association et collectif. Et c'est vrai que quand il y a des passerelles et quand il y a des projets en commun entre 5, 6 associations et collectifs, ça fait des projets vraiment fous et vraiment super, qui dynamisent des quartiers et qui ne font même pas que dynamiser des quartiers, mais qui redessinent vraiment une nouvelle société. Les gens vont se mettre à vivre différemment autour d'un jardin collectif, autour d'un supermarché coopératif, autour d'une centrale citoyenne de production d'énergie. Ça va vraiment redéfinir une nouvelle vie, un nouveau paradigme. Ensuite, oui, de la compétition, même dans les milieux associatifs militants pour le climat, il y en a, je le déplore. J'ai parfois cherché à comprendre pourquoi, et puis la réponse, elle est assez simple, c'est parce que c'est l'être humain. Et que aussi, on vient tous du même système scolaire. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai appris à être la meilleure en histoire parce qu'il fallait avoir plus de 10, parce qu'il y a les compètes entre élèves, parce que tout ça. Et je ne veux pas tout rejeter la faute sur le système scolaire, mais ça, l'école joue une grande partie dans notre vie. Et quand on sort du système scolaire et qu'on a la volonté de faire avec les autres, mais qu'on n'a pas forcément les outils, ben, y a conflit un petit peu. Et du coup, moi, c'est ce conflit-là que je... Enfin, et je l'avoue très facilement, que, qui est difficile, c'est tout un apprentissage, vraiment. Mmh. Et je pense qu'on ne peut pas construire un monde nouveau en reproduisant, en travaillant avec les outils de l'ancien monde. Mais ça va être long, c'est plutôt long.
D'accord.
J'espère que je ne serai pas morte avant de voir ça, mais...
Vous verrez plein de choses d'ici là. Donc pour vous, la politique donc zéro déchet, j'allais venir à cette question, comment mener une politique zéro déchet, mais en gros, elle passe d'abord par une éducation, elle passe d'abord par le refond des valeurs, en fait. Qu'est-ce qu'on met en premier? Est-ce que c'est la compétition? Est-ce que je dois être le meilleur? Ou est-ce que c'est... La société, effectivement, dans son ensemble, qui doit aller au bout, arriver tout le monde sur la ligne d'arrivée ensemble, ou est-ce que c'est le premier arrivé? C'est ça, en fait.
C'est,
c'est toute question d'éducation.
C'est éducation, mais ce n'est pas que éducation des enfants, parce qu'on ne peut pas juste espérer que ça arrive dans 3 générations. On a besoin d'agir aujourd'hui, parce que l'état du monde, il se dégrade, et on a besoin de restaurer... aujourd'hui déjà, on a besoin de restaurer plein de choses, la confiance entre les gens, on a besoin de restaurer les sols, on a besoin de restaurer une qualité de l'air correcte, qualité de l'eau, etc. Et je pense que l'éducation, elle doit passer aussi par en politique. C'est-à-dire que si on n'éduque pas nos élus à qu'est-ce que les gens veulent et quels sont vos leviers concrets pour y arriver, ça va être assez lent. Enfin, il y a souvent en fait cette dichotomie dans les milieux, on va dire dans la transition écologique en général, mais dans les milieux militants même, c'est l'individu et le collectif. Et on se dit oui, la transition écologique passera par l'individu, le changement va venir d'en bas, etc. Moi, j'y crois pas forcément. Et on entend aussi oui, le changement passera par en haut, c'est les politiques qui vont tout faire, etc. J'y crois pas forcément non plus. Je crois qu'il y a besoin que ça vienne des deux simultanément. Et il faut qu'on arrête de se cacher derrière cette illusion que ça vient d'un ou de l'autre. Il faut que ça vienne des deux. Parce que tout seul, on ne décide pas des politiques de gestion des déchets. On ne décide pas de quelle entreprise s'implante sur notre territoire. Il y a plein de choses que, concrètement, on ne décide pas qui se passent dans des bureaux, qui se passent entre copains, haut placés, etc. Donc il y a des choses que nous, on peut décider. On peut décider ce qu'on met sur notre corps, ce qu'on met dans notre bouche, éventuellement de planter des choses dans notre jardin, etc. Mais il y a des choses où on a besoin du politique. Et moi, c'est ce que je déplore, c'est qu'il y a beaucoup trop d'écolos qui évincent totalement cette question, en fait, du politique. Et pour moi, elle n'est pas perdue, la cause. Il faut juste voter pour les bonnes personnes et ensuite exiger... que les élus aient une formation régulière, parce que la science, ça va vite, parce que un territoire, ça bouge en fonction des gens qui viennent y habiter, etc. Donc, pour moi, la transition écologique, oui, elle passe par l'individu et le collectif, au sens large.
Vous dites voter pour les bonnes personnes. Oui. Comment évaluer la bonne personne? Je veux dire, c'est, même pour moi, c'est un défi aujourd'hui.
Non,
j'aimerais avoir votre secret, Justine.
Je m'intéresse de plus en plus au décryptage des discours politiques. Et ça, je pense vraiment que ça va être un gros enjeu des années à venir. Parce qu'on ne peut pas ne pas parler d'écologie. Donc tout le monde va en parler. Et tout comme chaque marque de produits de supermarché va mettre un petit logo vert sur son produit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont changé leurs approvisionnements, ni leur façon de travailler, ni les gens qu'ils exploitent plus ou moins pour fabriquer leurs produits. Mais c'est que c'est la mode de parler d'écologie. Donc tout le monde va le faire. Après, ça va demander un vrai travail de décryptage, savoir est-ce que cette pensée écologique, elle est elle va être mise en place avec le reste des citoyens qui habitent sur ce territoire. Est-ce qu'il va y avoir des consultations citoyennes pour décider de chaque projet? Est-ce qu'il va y avoir une vraie restauration au niveau des forêts, de la végétation, des espaces protégés pour les animaux, etc. Si c'est juste pour dire oui, on fait de l'écologie comme ça, c'est sûr, c'est pas. On appelle ça un peu le greenwashing, en fait.
D'accord. Donc, en fait, ce que tu dis, Justine, c'est quand même ce que j'entends, c'est une remise en question de la Ve République, en fait. En gros, une démocratie plus participative. Donc, c'est passé vers une autre, une autre forme de, une autre formule politique.
Pour la Ve République, je ne sais pas, je suppose, mais je ne suis pas politologue. Mais c'est vrai, dans le livre, j'ai un chapitre sur la politique. Et pour moi, c'était évident d'en faire un. Aujourd'hui, comment ça se passe? On a des listes et on vote pour des gens. Ils vont être là 5-6 ans au pouvoir et on ne va plus jamais avoir les moyens de leur dire quoi que ce soit parce qu'ils auront été élus par la majorité et qu'on estime que c'est légitime. Ils sont là de manière légitime parce qu'on a voté pour eux. La démocratie participative, elle peut poser des questions en termes de légitimité parce que finalement, bah, soit on tire au sort des gens, soit on les prend comme ça, et puis ils vont décider des choses. Donc on se dit, bon, mais et moi alors, enfin, ces gens-là, ils ont été choisis, ils ont parlé de trucs et moi, j'ai pas été entendue. Et on a cette fausse impression que parce qu'on vote pour quelqu'un, il est plus légitime que des gens tirés au hasard. En fait, pas forcément, si on réfléchit vraiment, les gens tirés au hasard, souvent, ils ont rencontré des experts dans le cadre de jurys citoyens, comme la Convention citoyenne qui a rendu son rapport à la fin du confinement. C'est des gens qui ont été éduqués, qui ont...
Oui, un très bon niveau.
Dont des experts, leur ont parlé de plein sujet. Donc, pour moi, ils ont pris des décisions éclairées. Mais les décisions qu'ils ont prises sont obligées de passer par le pouvoir légitime pour être mises en place ou pas. Et il y a plein de choses qui n'ont pas... Enfin, il y a deux, trois trucs, des points clés un peu qui n'ont pas été mis en place.
Par exemple qui auraient dû être mis en place, les points clés qui n'ont pas fait, qui n'ont pas été.
Je crois qu'il y avait un truc sur le fret aérien, les vols nationaux. Il y a des réflexions au niveau des régions, mais il n'y a pas... Enfin, ça n'a pas été légiféré, quoi. Pour dire, on arrête les vols intérieurs, on met le train. On n'a pas un si grand pays, ce n'est pas les États-Unis. Ici, on peut se rendre d'un point à l'autre en 5-6 heures, ce n'est pas non plus énorme, en fait, par rapport à nos anciens.
La 5G.
La 5G, je pense que ça... En fait, il y a eu un petit truc sur Le Monde qui expliquait que c'est un réseau intelligent qui allait pouvoir favoriser plutôt une opération à l'hôpital plutôt qu'un téléchargement de films, etc. Il allait avoir des ondes intelligentes. Mais pour avoir des ondes intelligentes, il faut déjà un multiplier. Parce que la 5G, c'est des fréquences plus courtes. Donc il va falloir multiplier le nombre d'antennes dans les villes pour pouvoir capter ces ondes plus courtes. Donc qui dit antenne nouvelle dit sidérurgie nouvelle. Donc... peut-être que ça va créer des nouveaux emplois à court terme, mais sur le long terme, je sais pas trop, on n'a pas peut-être de visibilité sur ça. Il faudra de la maintenance, donc c'est des emplois plus qualifiés. Mais en termes de santé, les ondes, beaucoup de personnes décrivent, et dont des scientifiques, l'impact des ondes sur la santé, les maux de tête notamment. Et puis, pour moi, c'est aussi... pour avoir la 5G, du coup, il faut changer d'équipement. Donc, c'est un peu la course à toujours dernier équipement. Et les téléphones portables, ce n'est pas non plus la filière de production la plus éthique du monde parce qu'il faut aller chercher des minerais au fin fond des sols, dont les terres rares, dans des mines où des enfants et des adultes sont exploités. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de notre ancien équipement? Eh ben, on le met soi-disant à recycler. Il y a toute une partie qui part, parce que la mafia de l'électronique, c'est quelque chose qui existe. Il y a toute une partie, une grande majorité, qui est déviée et qui finit au Ghana, à Agbogbloshie, dans la plus grande e-décharge du monde. Et ça pollue. D'ici 2040, ils n'auront plus d'eau potable, quoi, les gens qui sont là-bas. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a un gros, soi-disant, progrès technologique, il faut voir tout ce que ça impacte, quoi. Changement d'équipement, multiplication des antennes, impact sur la santé.
Et plus de précarité pour d'autres gens dans le d'autres citoyens pour les certains citoyens du monde.
Alors la précarité pour certaines personnes dans d'autres personnes dans le monde, et puis j'ai envie de dire une fracture numérique qui grandit, mais dans nos pays à nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui sont ultra équipés, qui peuvent lire les QR codes sur les tables de bar parce que maintenant on donne plus de menu papier. Et d'autres, qui comme moi, peuvent pas lire les QR codes. Et puis, du coup, alors pour commander un verre dans un bar, c'est toute une histoire. C'est quand même fou. Enfin, moi, ça me dépasse.
Je vais rebondir sur, donc effectivement, sur la logique de croissance-décroissance. Hein. La 5G donc, favorise cette croissance à outrance et dans une espèce d'inconscience de ce qu'on va créer chez d'autres. Comme réalité, notamment tu parlais tout à l'heure de la pénurie d'eau, de la crise hydrique. Chez les végans, hein, qui sont une forme aussi de militantisme écologique, tu dénonces à un moment dans ton ouvrage, quelque chose que moi je découvre totalement grâce à ton livre. Alors effectivement, les végans sont des friands de graines en tout genre, et notamment les noix de cajou. Et les noix de cajou, la production, la surproduction de noix de cajou pour satisfaire aux besoins effectivement de cette nouvelle population, crée des gros problèmes. Tu peux les décrire en Inde où cette noix de cajou est extraite.
Ah oui, c'est les femmes en Inde. En fait, j'avais lu sur un.
Un reportage.
Ouais, c'était un reportage. Mmh. En fait, les noix de cajou sont forcément dénoyautées à la main. Mmh. Et du coup, ça brûle en fait les doigts des femmes parce qu'à l'intérieur, il y a une sorte d'acide en fait qui brûle les doigts des femmes. Et la noix de cajou, c'est. Dans le régime végétalien, c'est un peu la base des fromages, c'est un peu la base des smoothies en tout genre, et puis on en grignote comme ça à l'apéro. En fait, c'est un peu, enfin moi, ça m'a fait un peu l'effet parce que j'ai essayé le végétalisme et j'ai mangé tout ça, j'ai mangé toutes ces choses qui aujourd'hui je décris que. Enfin, pardon. C'était quoi la question ?
La question, c'est effectivement, quand on d'un côté, on a cette espèce de course vers le toujours plus, donc à travers les téléphones portables, donc la 5G qui est en train de passer au détriment de l'alerte du mouvement dont tu parlais tout à l'heure. Tu vas rebondir dessus, le mouvement. Qui avait
La convention citoyenne.
Convention citoyenne qui avait alerté effectivement sur ces problématiques liées à la 5G et d'autres une autre dont tu parlais tout à l'heure. L'idée c'était effectivement d'aller aussi dans ces courants écologiques et voir aussi les contresens.
Oui.
Et les actions qui, effectivement, sous couvert de faire du bien, font du mal aussi par ailleurs. Donc, en gros, l'idée, c'est à un moment, on a le sentiment, et c'est que la vérité, elle est nulle part.
En fait, on découvre petit à petit en s'engageant que oui, la noix de cajou, ça peut poser des problèmes. Oui, l'avocat aussi, parce que la mafia de l'avocat, c'est quelque chose qui existe. Ça fait, pour moi, ça crée un peu le sentiment de une espèce de perte de confiance parce que c'est vrai que globalement, quand on parlait du véganisme, on avait l'impression que les fruits et légumes étaient exempts de violence, que c'était chouette, on pouvait manger de tout, être en santé et puis il n'y avait pas de violence. Et en fait, Il y a de la violence aussi dans les fruits et légumes. Alors, il y en a forcément dans les animaux morts, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait dans les noix de cajou, parce qu'ils sont dénoyautés à la main par les indiennes et que bah, ça leur brûle les doigts. Dans l'avocat, parce que y a la mafia du Mexique qui œuvre dans ces grands champs d'avocats, et c'est de l'argent qui va financer la prostitution, la drogue, les armes. Donc c'est pas super chouette non plus d'en surconsommer. C'est-à-dire que un mouvement, et c'était ça aussi la réflexion des mouvements zéro, c'est qu'un mouvement tout seul ne sert pas, ne sert, enfin, on ne peut pas isoler une problématique et se dire que, ok, la révolution passe par l'assiette et je vais faire, je vais manger que des fruits et légumes et ça va être plus chouette, le monde va être meilleur. En fait, il faut coupler cette réflexion, par exemple, du végétalisme avec bah, le bio déjà, et ensuite le local, parce que alors le bio sans le local, ça va pas, enfin il faut pas les exclure non plus, parce qu'il y a du local tout pourri, il y a qu'à voir nos fermes de cochons en Bretagne dont les lisiers créent les problèmes d'algues vertes, une super BD qui est sortie sur les algues vertes d'ailleurs. Et puis le bio tout seul, il faut le coupler au local, et il faut aussi le bio, faut le coupler aussi à l'intégrité humaine, parce que le bio intensif, ça existe aussi. En gros, c'est de la culture intensive sans chimie, et on en voit en Andalousie, ou même vous regardez sur Google, tu cherches Andalousie sur Google, et avec Google Earth, tu vois un champ blanc, et tu zoomes, et puis tu vois que c'est les cultures sous serre, sous les bâches plastiques, en fait. Et c'est du bio, mais c'est pas du bio qui est chouette. Donc en fait, il faut coupler plusieurs choses, et c'est ça l'idée des mouvements zéro, c'est que une pensée isolée nous amène pas à créer un nouveau monde, mais le complexe, oui. Ouais. Les associer entre elles, oui.
Donc ça demande énormément de curiosité.
Ça demande de la curiosité, et pour ça que je dis que c'est d'abord une démarche intellectuelle.
Très bien. Eh bien, merci Justine. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un dernier mot?
J'espère que le livre va aider les gens à avoir une vision globale. En fait, j'ai essayé vraiment de le penser de manière à vulgariser le plus possible, parce que j'ai conscience que c'est, comme je disais, c'est ultra complexe. En fait, il y a plusieurs choses qui s'imbriquent les unes dans les autres et dont on n'a pas forcément conscience. Et j'ai pas envie que ça désespère les gens, en fait, cette complexité. J'ai plutôt envie que ça les rende curieux. Et la curiosité, c'est assez sain. Même si on dit aux enfants qu'il ne faut pas l'être.
Nous, on trouve que c'est très sain.
Mais c'est très sain, la curiosité. Et d'aller chercher la solution qui est la mieux pour soi. Mais parce que vraiment, je me mets du point de vue des gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se passer de sa voiture alors qu'on habite en campagne et qu'il n'y a rien autour de nous. Il faut vraiment mettre en place les choses qui sont possibles à mettre en place par rapport à sa configuration de famille, par rapport à là où on vit, par rapport aux solutions qui sont directement accessibles à nous.
Très bien, bien, merci Christine.
Merci à toi.
Je rappelle le titre de ton livre, donc Guide des mouvements zéro, pour un futur enfin désirable, chez Tana Édition.
Oui.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Je vous rappelle le titre du livre de Justine Davas, Le guide des mouvements zéro chez Tana Édition. Si ce podcast vous a plu, faites-le savoir. Je vous donne rendez-vous sur boominou.fr où vous retrouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes, et je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!